France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est la première fois qu'une grande enquête scientifique nationale sur la sexualité pose cette question. Avez-vous déjà pensé à changer de genre ? Ni en 1970, ni en 1992, et toujours pas en 2006, les chercheuses et les chercheurs n'avaient songé à se demander dans quelle proportion les Français et les Françaises étaient traversés par un questionnement sur le genre. Les résultats sont donc difficiles à comparer, mais la proportion de personnes ayant répondu positivement à cette question est suffisamment significative pour qu'on s'y arrête. En 2023 donc, 2,3% des femmes et 2,4% des hommes de 18 à 89 ans déclarent avoir déjà pensé à changer de genre, ce qui peut inclure des expériences de non-binarité et ou des interrogations sur sa féminité, masculinité. Les personnes de 18 à 29 ans sont les plus nombreuses dans ce cas, 6% des femmes et des hommes dans cette tranche d'âge. Ces déclarations, précisons-le, n'indiquent pas qu'une transition de genre sera entreprise, mais elles témoignent d'une réflexivité croissante des jeunes générations au sujet de leur appartenance de genre. On le voit bien, évidemment, 2,3 ou 2,4% de la population ou 6% des plus jeunes, cela concerne un tout petit nombre de personnes. Mais ce sont des questions nouvelles, donc intéressantes, devenues éminemment politiques, puisqu'en cas de changement de genre, on demande à l'État de se prononcer et de l'autoriser ou pas. Et puis, il y a un autre chiffre qui nous a encouragés à en parler dans cette série. En 2023, 41,9% des femmes et 31,6% des hommes de 18 à 89 ans considèrent que la transidentité est une identité comme une autre. Tout de suite, trois récits par Élodie Font. Dernière nouvelle du sexe, dernière nouvelle du genre, 11e épisode.
Je m'appelle Charlie, j'ai 26 ans, je suis professeure d'anglais au collège, je suis une personne non-binaire, j'utilise le pronom « yel ». Je suis une personne pansexuelle mais qui est plutôt attirée par les femmes et je suis en couple avec une femme depuis un an et quelques. J'ai grandi dans une toute petite ville du 77, j'ai fait toute mon enfance et ma scolarité dans une école privée catholique. Toute ma famille était catholique. Pratiquante, pas tout le monde, mais c'était vraiment les valeurs dans lesquelles j'ai été élevée. Et en fait, il n'y avait pas du tout de diversité là où j'ai grandi. Du coup, c'est pas du tout des choses auxquelles j'étais confrontée, entre guillemets. Les premières fois que j'ai embrassé des personnes et tout, c'était plus avec mes copines pour essayer, comme un jeu, etc. Mais ça n'a jamais été verbalisé comme autre chose que des tests, des découvertes, etc. Et après, donc, j'ai commencé à avoir un premier copain quand j'avais 14 ans. Lui avait des désirs et avait envie de choses plus concrètes sexuellement, etc. avec moi. Et moi, pas du tout. Et il a abusé de moi à plusieurs reprises. Je sais qu'à l'époque, il m'a demandé de toucher tout son corps. Donc il voulait que je touche son sexe. Et quand je l'ai touché, j'étais là, mais pourquoi c'est dur, ça me dégoûte. Enfin, j'étais là, Et vraiment, je comprenais pas. J'ai eu donc cette première relation qui a été très dure pour moi. Et les premières fois où j'ai vraiment ressenti du désir, etc., c'était avec donc mon copain quand j'avais 17 ans. C'est venu progressivement, il m'a guidée. Et après, ça a été. En fait, je me suis pas mal épanouie sexuellement dans cette relation. Mais il était très manipulateur, il me rabaissait beaucoup. Donc la relation s'est terminée. Quand on a rompu, j'étais tellement soulagée, mais c'était une sensation incroyable. À l'époque, je venais de finir donc mon bac. Je suis rentrée en fac. Et je suis arrivée à la fac d'anglais, j'étais là, waouh. Je me disais, mais attends, mais j'ai l'impression que tout le monde est bi ou gay... trans, etc., etc. Et là, j'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité. Je me souviens qu'il y a un jour, j'ai aidé une amie à moi à déménager. Et donc, il y avait une fille à ce déménagement. Je l'ai vue, je me suis dit, waouh, elle est trop belle. Et je crois que c'est la première fois que je me disais ah ouais, je me suis vraiment dit en la voyant waouh. On a beaucoup discuté et on avait plein de centres d'intérêt communs. Et en fait, je sais plus, mais elle me dit oui, non, mais moi je suis bi de toute façon. Et moi dans ma tête, j'étais là, waouh, en plus elle est bi, quoi, trop bien. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je pense que je suis au moins bi. Mais ça a été très dur de le dire autour de moi et comment je le dis à mes amies d'enfance, etc. Est-ce qu'elles vont croire que je suis amoureuse d'elles ou que je vais les mater quand elles se changent aussi de le dire à mes parents. Et la première personne non-binaire que j'ai rencontrée, j'étais en L3. J'en avais super peur. Et je pense que quelque part, j'avais très très peur des questions que ça me posait, moi. Parce que je me disais, mais c'est chiant quand même, personne connaît. Ça veut dire qu'il faut éduquer tout le monde, ça veut dire qu'on demande aux autres d'utiliser d'autres pronoms, mais c'est pas naturel, les gens ils vont pas vouloir faire ça, etc. etc. Et c'est vraiment en me rapprochant de cette personne-là que j'ai pris conscience de qui j'étais. Et à la rentrée 2019, j'ai dit à cette personne, je crois que j'ai envie de dire que je m'appelle Charlie. Et il m'a dit, bah vas-y. Et c'est à ce moment-là où c'est devenu un peu plus concret dans ma tête. Et j'ai pu dire à mes amis proches de la fac, par exemple, ok, si vous pouvez m'appeler Charlie maintenant, ce serait super cool. Et les gens autour de moi ont commencé à m'appeler Charlie. Pour moi, c'était plus facile à expliquer à mes parents, par exemple. Parce que c'est pas si éloigné de ça, de mon dead name. Je me suis beaucoup cherchée aussi à cette période-là. Je savais pas comment m'habiller, je savais pas... Parce qu'il y avait aussi cette image de la personne que je devais être quand j'étais chez moi à la campagne, et cette personne que je voulais être quand j'étais à la fac. Bah, à la fac, tu t'habilles un peu comme tu veux, tu peux mettre des piercings. Mais en fait, quand j'étais à la campagne, j'avais les cheveux longs, j'avais pas de piercing. Ma mère ne voulait pas que je me fasse un deuxième trou aux oreilles. Et je m'étais fait percer les tétons. Et j'étais là, genre, j'ai des piercings et personne ne le sait. C'est l'époque où j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur mon genre. Et je me suis dit, et j'ai commencé à me rendre compte à quel point ma poitrine me dégoûtait. Et j'ai cherché une manière de me la réapproprier, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. La première vraie relation que j'ai eue avec une fille, c'était à 21 ans. Ça a duré 3 ans et demi. J'avais créé ce profil sur OkCupid et j'avais mis sur l'application non-binaire. C'est la première relation concrète et sérieuse que j'ai eue avec une fille. Et on a emménagé ensemble après le premier confinement, donc 6 mois après. Ça s'était fait assez naturellement, mais... La sexualité, c'était pas central dans la relation. Et en fait, après, elle m'a dit oui, j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai peur de mal faire et apprendre à construire ça ensemble. Je suis trans et non-binaire. Ça, c'est pas une question à laquelle on accordait beaucoup d'importance au sein de la relation. Et je lui ai plusieurs fois dit, par exemple, tu sais, c'est pas facile pour moi, je me pose beaucoup de questions. Et même si elle me disait je comprends, bah, en fait, non, elle pouvait pas comprendre. Et c'était compliqué la séparation parce qu'en fait, faut se reconstruire et enfin, c'est dur. Mais je me rendais compte que je n'étais pas forcément épanouie dans la relation. J'ai commencé à me poser des questions sur mon genre en 2019. Je crois que j'ai fait la démarche à la mairie pour changer mon prénom officiellement en 2021. Et une fois que j'ai reçu le papier, j'ai mis 2 ans et demi à changer ma carte d'identité. Je l'ai fait changer il y a 1 an tout pile. J'arrivais pas à passer le pas. Impossible. Je me sentais coincée, bloquée. Ça m'a mis dans un état dépressif très lourd. En fait, j'arrivais pas à avancer sur mon identité de genre. Je me suis rendu compte à quel point ça me faisait mal, mais ça me détruisait intérieurement. Et il y a une rentrée où, dans une de mes classes, j'ai eu des élèves trans pour la première fois. Et je me suis dit, waouh, ils ont 14 ans, ils s'assument plus que moi. Je me suis dit, mais je peux pas continuer à me mentir comme ça, en fait. Il faut que je montre qui je suis et que je sois fière de ça, parce que je vais m'auto-détruire et je vais détruire les gens qui ont besoin de représentation autour de moi. Et si je fais pas ça pour moi, il faut que je fasse ça pour mes élèves. Mes élèves m'appellent teacher, mais par exemple, mes collègues m'appellent madame. Mon collège, c'est vraiment un milieu hyper hétéronormé. Donc, en fait, déjà que je suis lesbienne, déjà qu'il y a ça, je suis la seule personne qui s'habille pas en gris ou en noir. Ça commence à faire beaucoup. Je sais pas comment ça va évoluer dans les prochaines années, mais je me rends compte à quel point c'est sensible. Parce que, par exemple, sur mon Insta, il y a marqué « Yel ». Et j'ai un élève, un cours, en plein cours, qui me fait « Du coup, faut vous appeler monsieur ». Mais dans la provoque, pas en mode bienveillant, tu vois. T'es là genre « Mais ça veut dire quoi, non-binaire, je comprends pas ?»« Du coup, vous existez pas ?» Et j'étais juste en mode « Ok, super. Ce n'est pas une conversation que je veux avoir avec toi et que je n'aurai pas avec toi. » Mais, et un jour, je me suis dit « Il faut que tu leur fasses ton coming out. » Je l'ai dit à ces élèves trans. Mais je sais que donc sur ces deux élèves-là, les parents soutenaient, etc. Et en fait, ils ont tous les deux maintenant fait leur changement de prénom à l'état civil. Donc, je sais pas si j'ai eu une incidence là-dessus, mais dans tous les cas, même si j'ai aidé 1%, c'est super pour moi. Et donc, à la fin de l'année scolaire suivante, je me suis recoupée les cheveux. J'ai fait enfin changer mes papiers d'identité. Le jour où j'ai reçu ma carte d'identité, j'étais là, waouh! Ah, c'était incroyable. La personne avec qui je suis aujourd'hui, elle s'appelle Julie. On a 16 ans d'écart. Et je l'ai rencontrée à une soirée queer, un dimanche soir. Ça a été beaucoup plus facile de se comprendre, parce que c'est aussi une femme trans. Comme on se pose des questions qui sont du même ordre, même si c'est pas exactement sur les mêmes sujets, c'est plus facile d'en parler et c'est plus facile de vivre dans une relation. Mais ouais, ça prend du temps et il faut aussi trouver des personnes avec qui tu te sens à l'aise d'explorer ta sexualité parce que franchement, c'est pas toujours facile.
Je m'appelle Johan, j'ai 28 ans. Je me définis comme une personne queer et j'ai une sexualité PD. En 2019, je faisais un stage pendant 6 mois à Londres et c'était un moment où j'étais assez isolé, j'avais pas d'argent, Londres est une ville très chère. Et dans ce moment de vulnérabilité-là, la question de mon genre s'est vraiment imposée de manière assez brutale, assez étonnante, enfin surprenante. Et je me souviens d'un lundi, j'avais passé la journée au bureau, j'avais passé 7 heures devant un tableau Excel à faire des choses très ennuyantes. Et je sens vraiment une forme de difficulté à respirer. Je marche dans les rues, je me dirige vers la station de métro et là j'ai une impression de chute, quoi. J'ai une impression de ne plus contrôler mon corps. Je sors de la station de métro et vraiment directement la question que je me pose, c'est est-ce que je suis une femme ? C'est la panique totale, j'arrive pas du tout à reprendre ma respiration à aucun moment et du coup je marche pendant 2 heures jusqu'à arriver chez moi. Il y avait quelque chose qui relevait vraiment du délire pour moi, quoi. Enfin, pourquoi, à un moment, à 22 ans, j'ai ce début de questionnement-là, quoi. J'ai une énorme boule dans le ventre qui s'insère dans mon estomac à partir de ce moment-là et qui devient vraiment étouffante et qui reste pendant des mois et des mois. Et j'étais vraiment dans l'incapacité de parler à qui que ce soit parce que j'étais persuadé que personne ne pouvait comprendre. Mais au bout d'un moment, je finis par exploser et en parler à des amis parce que juste, je peux pas me retenir de pleurer, quoi. Enfin, je suis dans un état de tension permanente qui est presque pas vivable, quoi. Le moment où je l'ai dit, c'était avec deux amis, une amie qui habitait à Londres en même temps, qui était en stage en même temps que moi, et une amie qui était venue nous rendre visite pour un week-end. Elles me disent, t'inquiète pas, enfin, je pense que tu aurais la force pour faire une transition de genre si jamais c'était ce que tu désirais. Elles me consolent. Mais j'ai vraiment du mal à les croire, quoi. Parce qu'en fait, il y a toujours ce sentiment de honte profond, ce sentiment vraiment d'admettre quelque chose de presque de sale, quoi. Enfin, de quelque chose qui est en dehors de la norme, quoi. À ce moment-là, je me dis vraiment, mais être PD, ça me suffisait, quoi. Enfin, j'ai vraiment pas nécessairement envie de découvrir que j'étais trans. Puis en fait, il y a énormément de transphobie intériorisée qui ressort, quoi. Enfin, tout ce qu'on a appris pendant notre enfance, pendant notre adolescence, et puis après pendant l'âge adulte, quoi. Puis ça paraît d'un coup vertigineux, quoi. Tu te dis, mais est-ce que du coup ma vie va changer ? Enfin, il y avait toujours ce truc, justement, très binaire avec le genre qui présupposait qu'on devait nécessairement sauter d'un genre à l'autre, féminin et masculin, qui sont en fait les performances de genre qui sont autorisées. Et devoir faire un saut d'un côté ou de l'autre, ça me paraissait être aussi assez vertigineux, quoi. Ça voulait dire prendre une décision pour toujours, là où je me sentais pas nécessairement en capacité ou avec la volonté de le faire, quoi. Après toute cette période de longue qui dure quelques mois, je rentre à Paris en disant à Paris, tout va bien se passer, je vais pouvoir reprendre ma respiration. Le temps passe, j'arrive à oublier plus ou moins, j'en parle plus trop à mes amis. Ça c'est toujours dans un coin de ma tête, quoi, mais j'essaie juste de pas y penser, quoi. C'est un moment où je sors beaucoup et je bois beaucoup d'alcool, quoi. Pour oublier mon corps, pour pouvoir rigoler, j'ai une hygiène de vie qui est vraiment mauvaise, quoi. Mais je suis quand même dans un état psychologique où je me dis je veux que ça s'arrête, quoi. Je décide de partir vivre au Sénégal. Je travaillais pour une ONG, j'avais déjà habité dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. J'ai eu une vie très heureuse pendant un an et demi, je me suis fait plein d'amis. Et après, la deuxième année a été beaucoup plus dure, j'ai un peu découvert l'enfer du décor, la difficulté de la vie de toutes les personnes qui y vivaient, des personnes queer, quoi. Dans un pays homophobe et transphobe, quoi, où le pays l'est structurellement et c'est inscrit dans la loi, quoi. À ce moment-là, j'ai eu aussi un vrai retour de bâton, quoi. J'ai recommencé à faire beaucoup d'anxiété, et puis de plus en plus, vraiment se faire interpeller monsieur, ça devenait insupportable, j'en pouvais plus, quoi. Je ressentais vraiment une grande, grande fatigue vis-à-vis de ça. Et du coup, ma coloc m'a trouvé une psy à Montreuil que j'ai vue en ligne. Et là, ça m'a décoincé. Et puis en fait, je me suis mis en arrêt de travail. Je suis rentré en France. J'ai continué ma thérapie. Et là, il y a plein de choses qui se sont débloquées, quoi. Ma psy m'a dit que j'étais victime de harcèlement scolaire quand j'étais au collège, ce qui explique beaucoup de choses. Il y avait quelque chose qui dérangeait profondément mes camarades de classe, c'est que j'étais quelqu'un qui était perçu comme un garçon, mais qui était efféminé. Si j'avais un genre efféminé, c'était que j'étais une pédale, quoi. C'était la honte suprême d'être une pédale. Donc, du coup, j'ai vraiment mis en place une stratégie très claire d'oubli, quoi. Il est hors de question que j'y repense. Puis, au bout d'un moment, je l'ai vraiment complètement oublié. Mais j'en avais jamais parlé à qui que ce soit. J'en ai jamais parlé à mes parents, à mes sœurs, à des amis. Ça avait jamais vraiment été mentionné, quoi. Dès qu'on me parlait du collège, c'était vraiment quelque chose dont je parlais pas, auquel je répondais pas, quoi. Le travail avec cette thérapeute m'a permis vraiment de me remémorer, parce que de fait, j'avais tout oublié. D'un coup, ça m'a permis d'expliquer Londres, quoi. Ça m'a permis d'expliquer pourquoi, à 22 ans, je me suis retrouvé dans une station de métro avec une crise de panique pas possible, et j'ai eu l'impression de tomber de 5 étages parce que j'avais des réflexions transidentitaires, quoi. Et en fait, c'était juste que j'avais créé un personnage pendant tous les autres et que ça faisait 10 ans que j'avais un masque sur le visage, quoi. Mes proches, quand je suis rentré de Londres, je leur ai dit, quand je suis rentré de Dakar, pardon, là, je leur ai dit vraiment pour le coup, faut que ce soit dans ma vie tous les jours, en fait. On arrête de me dire mec, blablabla, de me lier à une forme de masculinité, quoi. Puis là, je leur ai parlé de la dysphorie pour la première fois, mais en donnant des détails, en disant, là, par exemple, aujourd'hui, je suis désolé, je me sens pas très bien, je suis triste parce que je ressens de la dysphorie, par exemple, ou désolé, là, je suis dans une phase anxieuse parce que je ressens de la dysphorie, quoi. La dysphorie, c'est un sentiment d'inéquation entre son corps et son genre. Les parties de son corps en particulier peuvent nous mettre particulièrement mal à l'aise, quoi. Moi, il y avait un moment où entendre ma voix et sentir ma voix vibrer dans mon corps, j'avais l'impression que tout mon corps vibrait. Il y a des jours où, du coup, je restais dans le silence. C'était dur d'entendre ma propre voix, quoi. Enfin, maintenant, la vie est bien plus douce, quoi. Je dis tout le temps que mes pronoms, c'est il, elle, yel. J'ai pas envie d'être genre un que il. Mes proches font attention, quoi. Mais du coup, j'alterne. Le elle, ça me va bien aussi. Le yel, ce serait vraiment une forme d'idéal, quoi. Mais je pense qu'on doit encore continuer de construire la langue française pour que ce soit vraiment abouti, quoi. Maintenant, je considère vraiment que mon genre, c'est une balance, en fait. Je pars avec une balance négative, avec beaucoup de masculin, de fait, mon assignation de naissance. Et je la rééquilibre avec des attributs qui sont considérés comme féminins pour trouver un équilibre sur la balance du genre qui me correspond, quoi. Cet été, ça a été une sorte de changement parce que j'ai adopté une esthétique plus féminine, quoi. Je mets des bottes à talons, des petits shorts en jean, mes boucles d'oreilles et tout. Moi, je me sentais méga badass, quoi. Enfin, j'étais genre, personne ne me peut, quoi. Je me disais, putain, mais enfin, la rue, elle est à moi aussi, quoi. Il se passe quelque chose de vraiment jouissif, quoi. Je me sens dans la puissance, quoi. Et en même temps, ça s'était souvent rattrapé par des moments un peu de peur, quoi. Enfin, je me suis vraiment rendu compte que ma présence dans l'espace public n'était pas anodine, quoi. Dès que je m'asseyais à la terrasse d'un bar, je voyais, ça m'arrivait vraiment souvent de voir tous les regards se tourner. Je peux pas considérer que tous ces regards soient des regards malveillants à chaque fois, parce que sinon, je vais continuer de vivre dans la peur, etc. J'accepte cette curiosité-là, quoi. Mais elle me dérange quand même, quoi. Et elle continue de me mettre quand même en colère parfois, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Myrtille, j'ai 32 ans, personne non-binaire et lesbienne. Je préfère le YEL. En grandissant, je sais que j'avais ce décalage déjà un peu à l'époque de pas me sentir complètement fille, mais de pas avoir de mots pour vraiment définir ça. Pendant l'enfance aussi, ma mère me laissait m'habiller comme je voulais, par exemple. Il y avait juste une fois où, je me souviens, il y avait ma grand-mère irlandaise qui était de passage en France, donc c'était quelque chose. On allait sortir et elle me disait « Ah, bah, est-ce que tu peux... » Elle t'a offert une robe il y a quelque temps, tu la portes jamais parce que tu détestes ça. Est-ce que ça te dérange pas juste pour lui faire plaisir de la porter ? Donc j'avais mis ma petite robe, les petits collants blancs. Et j'avais l'impression d'être un peu un clown, d'avoir ce truc de... C'est un déguisement qui me va pas du tout et j'ai l'impression d'être un peu un homme portant une robe en fait parce que ça allait pas, ça s'était pas aligné avec moi-même, je pense. À l'adolescence, c'était trop tôt. Mon amour des femmes éclipsait tout ce qui était questionnement de genre. Je pense que j'avais pas la place, les mots et la culture aussi parce que à l'époque, ce qui était représentation de personnes trans et non binaires, alors là, c'était vraiment pas ça ou c'était très tragique. En grandissant, bah, moi, ce qu'on me proposait comme option d'être une femme, ça m'allait pas du tout. Je commençais à avoir 15 ans, il y avait quelque chose qui se développait en fait au niveau de la poitrine. Et je voyais un peu toutes mes amies qui avaient ce changement et qui étaient ravies de ce changement. Et il y avait une espèce d'excitation de « Ah, moi, ça commence, tout ça ». Je me souviens que j'étais pas du tout excitée à l'idée que ça se développe. Au contraire, ça me laissait assez froid. La première fille que j'ai embrassée, c'était en soirée. J'avais 21 ans. Et quelques temps après, j'avais rencontré une amie qui allait pas mal en soirée gay. Et en fait, c'est à ce moment-là que déjà je me fais un groupe d'amis queer où il y a cette communauté qui se crée de soirée en soirée. Et aussi, bah, du coup, en soirée, de rencontrer des filles avec qui on s'embrasse, on passe un très bon moment pendant la soirée. Et après, moi, j'ai pas envie de plus avec elle, j'ai pas envie de faire des choses sexuelles, ça me vient pas à l'esprit. Pour moi, cette dimension sexuelle n'existe pas en moi à ce moment-là. Je sais qu'il y a eu des moments où c'était dans l'esprit des filles en face de moi et que du coup, je comprenais pas trop, je comprenais plus les règles parce qu'en fait, c'était pas un jeu auquel j'avais envie de jouer. Et ça me surprenait un peu de voir que ce qu'on faisait pouvait être potentiellement source d'excitation ou de... C'était un langage que j'avais pas du tout. C'est vrai que je me souviens par exemple à l'adolescence où des amis parlaient leur expérience sexuelle avec leurs copains, copines, et que j'arrivais pas à comprendre en fait pourquoi est-ce que déjà ils avaient envie de faire l'amour, pourquoi est-ce qu'ils faisaient l'amour. Je me disais, ils font semblant. Enfin, je me disais vraiment, genre, ils exagèrent, c'est pour faire comme les autres, mais ça existe pas vraiment, on est tous d'accord. Vers mes 24 ans, je fais une formation pour être libraire. Dans cette promo, du coup, il y a une fille qui me plaît beaucoup. Et petit à petit, elle me fait comprendre que c'est réciproque. Il y a un rapprochement évident d'intention. Ça devient beaucoup plus tendre aussi entre nous. On se faisait des câlins, des choses comme ça, des petits contacts. Et moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans mes relations, en tout cas pendant un très long moment. Mais il y a aussi des moments où... À nouveau, je sens un décalage sur la question de la sexualité, où moi, c'est pas encore présent dans mes sentiments pour elle, mon amour pour elle. Et elle, je sens que ça a peut-être déjà sa place. Je sens qu'elle a envie qu'on soit plus proche, qu'il y a des mouvements de bassin ou des choses comme ça, enfin, qui pour moi font pas trop sens avec le fait de s'embrasser. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure de notre relation, j'ai eu, je pense... peut-être la meilleure première fois pour une personne asexuelle où on était habillés, on s'embrassait, je lui embrassais le cou et il y avait ce truc où je sentais que ça lui faisait du bien. Je continuais dans l'acte et du coup c'était bah, ouais, un acte sexuel parce qu'il y a eu orgasme, mais qui était sans nudité, sans échange de fluides, sans choses que certains considéraient sexuelles, mais en fait ça m'a un peu dédramatisé aussi sur ce que peut être le sexe. Et petit à petit, avec elle, j'ai trouvé et exploré des choses qui, sexuellement, étaient satisfaisantes. J'ai découvert que qu'une fois que j'ai une certaine connexion avec une personne, je peux avoir ce désir pour l'autre. On a été ensemble pendant presque 2 ans, mais ça a pris fin. Quelques temps après, pendant le Covid, j'étais beaucoup avec moi-même. Les interactions que j'avais, c'était avec les courses, et c'était du coup masqué. J'avais les cheveux courts, et mon style est plutôt masculin, et on me renvoyait au moment de la caisse du « bonjour monsieur », des choses comme ça. Ça me faisait beaucoup de bien. Ah, on me voit pas comme une fille. Ça met peut-être le doigt sur quelque chose que je ressens et que j'avais pas pu vraiment identifier ou explorer avant. Post-confinement, donc je commence à remettre des brassières parce que je commence à avoir ce mal-être par rapport à, qui est centralisé sur ma poitrine et cette envie que cette poitrine n'existe plus. J'ai envie de faire une mastectomie, donc de faire une espèce d'ablation de la poitrine. Je sais que moi, si je me retrouvais là, seule sur une île, j'ai quand même pas envie que cette poitrine existe. Et que c'est pas juste lié au regard extérieur, mais que c'est un besoin de moi-même à moi-même et d'alignement là-dessus. Et c'est vrai que j'aimerais bien, cette année, au niveau de l'été ou un peu avant l'été, avoir cette opération. C'est pas simple comme parcours et il faut aussi des médecins qui sont alliés à la cause. C'est un combat, quoi. J'ai pas envie que les gens que je ne connais pas et que je connaisse me voient comme une femme parce que c'est plus le cas. Enfin, je suis en train de me dire, en fait, je ne suis pas une femme. C'est vrai que je me sens ni homme ni femme, mais j'arrive pas à... Si on me demande quel est mon genre, c'est un peu... Il y a un vide, quoi. Enfin, le langage crée 2 cases et mon existence n'est pas dans ces 2 cases.
C'était des genres plus fluides, 11e épisode de notre série Dernières Nouvelles du Sexe, un reportage d'Élodie Font réalisé par Eric Lancien. Merci à Charlie, Johan, Myrtille et Fanny. Merci toujours à Armel Andro et à toute l'équipe qui a réalisé cette immense enquête scientifique Contexte des sexualités en France et qui y travaille depuis 5 ans. Elle est réalisée sous la direction d'Armel Andro, Nathalie Bajos et Caroline Moreau par l'INSERM pour la NRS Maladie Infectieuse Émergente avec Santé Publique France. Et nous, notre podcast, il est en partenariat avec Libération. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue. Sébastien, merci aussi. J'en profite à Carole Bure, à Camille Renard et à toutes les équipes du web de France Culture. This is so sad.